terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ekuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL.
Voilà, deuxième heure de Néo-Québec. C'est fou parce que on prévoit une émission, on prévoit des sujets, puis on tombe sur certaines informations. Je reviens donc sur celle que j'ai donnée au début, où je vous parlais de ce premier ministre hongrois, Viktor Orban. Alors, il s'est engagé, ou il a appelé à combattre les échanges de population. Voilà comment il a appelé ça, orchestré par l'Europe, cet empire fédéraliste. L'Union européenne rejette l'héritage chrétien et organise des échanges de population à travers la migration. Je rappelle, en passant pour ceux qui ne connaissent pas, que quand on dit Viktor Orban, c'est un ultra-nationaliste. Et c'est fou, je tombe sur cette information ce matin, puis je dis, les étoiles sont alignées parce que on reçoit une spécialiste, professeure à l'université de l'UQAM, directrice de l'Observatoire sur l'immigration internationale, les réfugiés, les apatrides et l'asile, en abrégé OMIRAS. Madame Dei Dinaba Ndiaye, qui est professeure spécialiste du droit des migrations, que j'ai plaisir à recevoir dans cette émission, c'était dit qu'il fallait absolument qu'on en parle. Bonjour.
Bonjour Cyril.
Merci d'être venu parce que on a eu la chance de participer à un podcast qui va paraître bientôt là pour l'automne d'après ce qu'on sait, et on parlait de migration. On entend beaucoup parler de... Il y a des sujets qu'on ne présente pas. On entend beaucoup parler de crise. Crise des migrants, crise des migrants. On voit des images, les unes les plus dramatiques que les autres, la Méditerranée. Alors, on parle de la crise des migrants, de la Méditerranée vers... donc, de l'Afrique vers l'Europe. On parle de migration à l'intérieur de l'Europe. On en a vu. Bon, on a tendance à oublier qu'à l'intérieur même du continent africain, il y a des migrations aussi qui existent. Je veux qu'on commence par peut-être des petites définitions simples. Hein. Migration, c'est quoi? D'ailleurs, quand j'ai dit migration, est-ce que c'est pas quelque chose qui fait partie de l'être humain, quoi? On n'est pas des sédentaires. L'être humain se déplace. C'est quoi la migration? C'est quoi l'immigration?
Alors, merci beaucoup Cyril de l'invitation. Tout le plaisir est pour moi aujourd'hui de participer à une belle émission et d'échanger avec vous sur cet enjeu en fait qui nous interpelle toutes et tous. La migration est un fait social, ce n'est même pas un phénomène. C'est un fait social qui a façonné l'histoire du monde, qui on reconnaît l'origine africaine de l'humanité et c'est partir de l'Afrique qu'évidemment les populations se sont déplacées vers l'Est, vers l'Ouest, etc. Et qui fait qu'aujourd'hui, on a 8 milliards, je pense, d'habitants dans le monde qui sont différents. Mm-hmm. Toutes ces personnes-là sont différentes les unes des autres. Et ça, c'est, on le doit à l'immigration, la migration. La migration, on n'a pas de définition universellement en fait, acceptée. Mais on a des éléments sur lesquels on peut se baser pour parler de migration. Évidemment, on peut utiliser le glossaire de l'Organisation internationale pour les migrations qui, depuis quelques années, s'efforce de donner de la définition à la migration qui est le fait de quitter son pays d'origine ou de naissance ou de résidence et d'aller ailleurs en traversant une frontière, dans certaines situations, pas nécessairement, avec comme pour objectif d'y trouver un emploi, d'améliorer ses conditions de vie, de chercher une protection internationale dans certaines conditions, de fuir les conséquences des changements climatiques. Donc, et ceci, ça peut se faire évidemment de façon temporaire comme de façon indéterminée. Donc, voyez, donc on a plusieurs éléments qui nous permettent de définir la migration. Quant à l'immigration, c'est le fait de franchir, d'entrer dans un pays. Donc, comme moi, je suis sénégalaise, quand j'arrive au Canada, j'immigre au Canada parce que je quitte mon pays qui est le Sénégal et j'arrive, j'ai immigré, entrare, comme on dit en italien, immigrare. Entrer dans un autre pays. Donc, selon les statistiques, le Sénégal va me considérer comme une émigrée sénégalaise.
Émigrée.
Oui, alors que le Canada va me comptabiliser comme une immigrée. D'origine sénégalaise, une immigrée sénégalaise. Voilà, en quelque sorte.
Alors, mettons les, j'allais dire, mettons les pieds dans les plats. Depuis, parce que grosso modo, on en a parlé. Il y a eu deux crises. On a vu toutes les sorties de l'Afrique vers l'Europe.
Oui.
Avec des milliers, aujourd'hui on les compte par millions, on parle plus de centaines de morts, dans des millions. Voilà, merci pour la précision. Qui sont partis et beaucoup sont morts. Depuis un moment, on observe un phénomène. D'accord, un phénomène. On observe des accords entre, par exemple, l'Italie. Après, c'est rentré dans l'Union européenne, mais l'Italie versus des pays comme la Tunisie. Il y a eu un scandale récemment en Tunisie où on a le président tunisien a carrément utilisé les mêmes termes que Orban. Il parlait quasiment de grand remplacement, ce que sa population, une bonne partie de sa population, n'a vraiment pas accepté. Ils étaient vraiment contre ces propos et où on a vu on les appelle quoi, des réfugiés, des gens qui essaient de partir, des subsahariens pris, ramassés et puis aller être balancés dans le désert. On proposait, et je le dis vraiment de manière très caricaturale, hein, j'ai pas les textes, mais ces pays proposaient à la Tunisie, entre autres, ben, gardez-les, ces gens qui veulent sortir, ces immigrés potentiels, là, gardez-les. Et nous, on va vous venir en aide, de différentes façons. Et on sait que, bon, on parle d'argent, d'aide bilatérale, ainsi de suite. Dans l'autre sens, on sait aussi qu'il y a récemment, ça a été bloqué par la justice, en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne et le Rwanda qui avaient signé un accord où il était question que le Rwanda récupère des demandeurs d'asile et ça a été bloqué par la justice. Tout ça, grosso modo, on parle de plus en plus de crise des migrants.
Oui.
La crise commence quand? Parce que apparemment la migration, elle est naturelle.
Ouais.
On commence à parler de crise à quel moment et pourquoi?
Alors, crise, je vais vous donner quelques exemples.
Mm-hmm.
L'Union européenne, on parle de 500 millions d'habitants. En 2015, il y avait 1 million de franchissements irréguliers, c'est-à-dire 1 million d'entrées irrégulières. Donc, okay. Il y a des personnes qui ont essayé d'entrer au niveau des pays membres de l'Union européenne, qui à l'époque étaient 28 à plusieurs niveaux. Donc, quand on leur refusait un accès, l'accès à un territoire, ben, ils faisaient le détour, ils essayaient d'entrer dans un autre. Donc,
okay.
Le Frontex, qui est l'agence censée gérer, en tout cas assurer la sécurité des frontières extérieures de l'Union européenne, entre autres, ses nombreux mandats, avait donné cette information-là, avait comptabilisé 1 million de franchissements. Alors, 1 million versus 500 millions d'habitants, est-ce qu'on est dans une crise migratoire? On peut toujours en discuter.
Mm-hmm.
Vous avez évoqué tout à l'heure l'histoire ou la décision prise par le président tunisien Saïed avec ses propos, évidemment, qui sont à déplorer. Et comme quoi, l'immigration venant de l'Afrique subsaharienne vise évidemment à remplacer la population tunisienne. Mmh. Si l'on sait que 1,2 million de Tunisiens et Tunisiennes vivent hors de la Tunisie, et pour la parmi cette population-là, il y en a qui sont en situation d'irrégularité, et que la population subsaharienne tourne autour de 20 000 personnes.
Mm-hmm.
Donc, je ne sais pas à quel moment on va parler ici de crise. Et je peux continuer à parler, à donner des exemples.
Plusieurs exemples
pour juste déconstruire un peu cette idée qui tourne autour de la crise migratoire, crise des réfugiés, etc. On en a eu notre crise, nous autres aussi, avec le chemin Raqqsam.
Oui, on anticipe même une question,
on reviendra
effectivement,
là-dessus.
Oui, on va revenir
là-dessus. Exactement,
mm-hmm.
Donc parce qu'il y a eu 50 000 entrées venant de irrégulières aussi, mm-hmm. Parce que des gens qui sont arrivés à travers le chemin Raqqsam pour faire des demandes d'asile. Alors, pour revenir sur la question que tu m'as posée tout à l'heure, mm-hmm. On a parlé d'immigrants, de migrants, on n'a pas parlé de réfugiés, parce qu'on n'a pas parlé de demandeurs d'asile non plus.
Qui sont différentes catégories.
Différentes catégories, mmh. Que le droit, évidemment, divise, parce que le droit crée des catégories, et à ces catégories-là, associe évidemment des statuts. Donc, le demandeur d'asile, c'est la personne qui demande une protection internationale. Mmh. Donc, les demandeurs d'asile qui viennent au Canada vont présenter une demande d'asile. Avec ce statut-là, ben, vont pouvoir travailler, etc., en attendant que la commission, qui est la section de protection des réfugiés, va statuer sur leur demande. Mm-hmm. Si leur demande est jugée recevable, évidemment. Si leur demande est acceptée à ce niveau-là, ben, ils seront des réfugiés, ces individus-là.
OK.
les demandeurs d'asile, les réfugiés, les migrants climatiques, bref, toute cette grande population-là, aujourd'hui, est confrontée à un contexte particulier qui se justifie évidemment par des positions politiques d'extrême droite, extrêmement graves, et qu'on retrouve un peu partout, aussi bien en Tunisie, en Amérique latine, en Europe comme en Afrique. Et c'est, je l'ai dit dans mes propos tout à l'heure, c'est déplorable, parce qu'on n'est pas dans une perspective de crise. Crise, là, il n'y en a pas. Moi, je considère qu'il n'y a pas de crise. Il y a des populations qui se déplacent, on est dans l'ère de la mondialisation, il y a des gens qui veulent améliorer leurs conditions de vie, il y a des gens qui veulent une protection internationale, et c'est un devoir de leur accorder cette protection internationale-là si ces individus remplissent les critères de la Convention de Genève, de son protocole, etc. Donc, pour moi, il n'y a pas de crise. Pas de crise en tant que telle. Si on regarde les statistiques du nombre de personnes concernées par rapport à la population locale.
Donc, on le comprend. Donc, c'est purement politique. Il faut faire mousser. On est dans le populisme.
De plus en plus, il y a cette théorie du grand remplacement qui est véhiculée, j'allais dire, par des politiciens, par des populations, par des associations, des organisations. Bref, en tout cas, les gens considèrent que la migration venant de certaines régions, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est pas toutes les migrations. Vous, si vous êtes Canadien, vous pouvez immigrer ailleurs. Je pense que vous n'aurez pas la même perception d'un Canadien qui va immigrer qu'au Sénégal du Sénégalais qui va immigrer au Canada.
Mais c'est là justement où je voulais absolument qu'on aille, Dinaba, parce que, je l'ai dit tantôt, on parle d'immigrants, Afrique, Europe, ceux qui prennent des canaux pneumatiques, des bateaux de fortune, qui à un moment donné dans la Méditerranée, la moitié de l'embarcation, si on peut appeler ça comme ça, tombe à l'eau et puis voilà, on oublie. Et puis il y a ces migrants, je vais utiliser un terme peut-être pas, non, je vais pas l'utiliser, j'allais dire horde de migrants. Parce que là, je tombe dans... Non, pas des hordes. On voit des gens
des flux.
C'est le mot que je cherchais.
Des flux migratoires, c'est vrai.
Mais on voit un groupe de personnes donc, qui quittent un pays européen pour aller dans un autre. Même s'ils ne font pas partie de l'Union européenne, mais je parle du continent européen. Ouais. Et dans la manière dont on en parle, on peut pas... Il y a vraiment deux façons d'en parler. Comment vous caractérisez l'immigration. La migration Afrique-Europe versus la migration intra-européenne.
Oui, alors, et pour contextualiser, parce que la question tout à l'heure était celle de savoir si, à quel moment on pourrait parler de crise migratoire. C'est que je ne considère pas qu'il n'y a pas de crise migratoire, puis je ne suis pas la seule, évidemment, à considérer qu'il n'y a pas de crise si on regarde les statistiques. En dehors de ça, on peut partir quand même de 2015 en Europe. 2015, pourquoi? Parce qu'il y a eu 1 million de franchissements réguliers, comme je viens de le mentionner tout à l'heure, qui s'expliquent aisément. En 2011, parce qu'on va revenir sur la Tunisie, en 2011, il y a ce qu'on appelle la révolution arabe.
Oui.
Alors, qui a été déclenchée à travers une demande sociale qui n'a pas été répondue positivement. En tout cas, les autorités politiques n'ont pas apporté les réponses adéquates à la population tunisienne qui avait des demandes sociales très définies et très légitimes. Et à partir de la Tunisie, mais ça s'est propagé un peu partout, dans le Maghreb, notamment en Égypte, jusqu'au Moyen-Orient, en Syrie. Donc, on a eu la crise syrienne. Avec la crise syrienne, évidemment, les populations ont quitté, comme toujours en cas
de guerre, de
conflit. Les populations les plus fragiles vont quitter. Celles qui n'ont pas de solution, pas d'alternative, de solution vont aller dans les pays limitrophes. Et c'est ce qui s'est passé en 2011. Entre 2011 et 2015, grande partie de la population est allée au Liban, dans les pays limitrophes, en Jordanie. Ces pays-là n'ont pas la capacité pour accueillir autant de demandeurs d'asile ou de potentiels réfugiés, mais ces gens se sont enfuis dans ces pays-là.
Okay.
Et l'Union européenne, comme la communauté internationale, continue à dire à ces individus-là, restez dans les camps, on viendra, on va trouver une solution politique, parce qu'on va déloger peut-être le président syrien. Bref, je ne rentre pas ça, je ne suis pas politiste ni politologue. Mais ça ne s'est pas réalisé, les gens ont attendu, et en 2015, les populations syriennes ont décidé de partir.
De quitter les camps où ils étaient.
C'était celles et ceux qui avaient les moyens de partir parce que ça coûtait quand même entre 10 000 et 20 000 euros de pouvoir quitter et d'emprunter ces voies, comme vous venez de le mentionner, les voies vers la migration irrégulière, mais ou la demande d'asile ou la protection internationale. Bref, en tout cas, les gens qui pouvaient partir ont quitté, se sont enfuis très rapidement. Je sais qu'on a un problème de timing, je vais aller très rapidement. Non, mais juste contextualiser parce que les questions se complètent. Ouais. D'accord. Donc, à ces populations-là, il y a eu parmi ces populations-là évidemment des Africains, des Subsahariens parce qu'on parle de plus en plus de flux mixtes. Donc flux mixtes, c'est-à-dire des gens, des demandeurs d'asile, des migrants irréguliers, des migrants économiques. Bref, on parle de flux mixtes. Et par rapport à la population africaine, ou en tout cas la migration africaine vers l'Afrique, vers l'Europe, c'est quelque chose qui date depuis toujours, en tout cas depuis j'allais dire les années 60, au lendemain de la décolonisation, la période des indépendances, et que pour des questions, j'allais dire culturelles ou historiques, bref, en tout cas, les populations africaines, sont allées vivre en Europe pour trouver un travail, pour étudier, etc. Jusque dans les années 90. On peut dire que la fermeture des frontières, ou en tout cas la politique restrictive qu'on constate maintenant, a commencé dans les années 70, progressivement au niveau de certains pays de l'Union européenne, jusqu'à se rendre vraiment en 2000, où l'Union européenne a décidé d'introduire ce qu'on appelle une clause de réadmission, que moi je considère comme une clause migratoire que j'ai conceptualisée dans ma thèse, parce que les accords que vous dites, comme quoi l'Union européenne délègue, transfère ses obligations aux pays tiers pour que ces États-là bloquent les migrants. Okay. C'est ce qu'on appelle l'externalisation de la migration, l'externalisation de l'asile. Donc, je l'ai théorisé, je l'ai conceptualisé dans ma thèse de doctorat. Okay. Si vous avez envie de lire ces 100 pages, bienvenue au club. Je ne vous le conseille pas.
Dites-nous ça en une phrase.
Exactement. Ouais. Donc, et l'Union européenne a commencé sa gestion de la migration, surtout vers les Africains, ça il faut le dire tel quel, à coopérer, à parler de responsabilité partagée. Toutes les terminologies qui ont été utilisées, bref, c'est pour dire tout simplement que l'Union européenne demande, et les États membres, aux pays tiers, c'est-à-dire les pays qui sont les pays maghrébins, notamment la Tunisie, etc., les pays voisins de l'Union européenne, et les pays d'origine, notamment des migrants, comme les pays subsahariens, de faire tout pour que ces migrants-là n'arrivent pas sur le sol de l'Union européenne. Ça, c'est un des éléments de l'externalisation. L'autre, c'est évidemment la réadmission, sans que c'est le renvoi des immigrants. Okay. Ce qui nous intéresse ici, c'est le blocage, parce que c'est le blocage qu'il s'agit ici. Et la réaction du président tunisien, évidemment, ça s'explique aisément, parce que la Tunisie va avoir du financement de l'Union européenne. Et le président a réussi quand même, parce qu'il y a récemment, il y a un accord qui a été conclu avec l'Union européenne qui vont verser plus de 100 millions d'euros à la Tunisie pour permettre à la Tunisie de sortir de la crise économique. Exact. Mais surtout, à travers évidemment un déploiement de dispositifs, de moyens importants pour que la Tunisie puisse bloquer les migrants sur son sol. Et ce n'est pas la première fois que ça se fait. Avec la crise syrienne, l'Union européenne l'a fait avec la Turquie. 6 milliards d'euros. Au final, est-ce que ça a empêché les gens d'arriver? Les gens qui quittent, comme le disait François Crépeau, que j'adore citer souvent dans mes entrevues, dans mes conférences, qui est mon ex-co-directeur de thèse, et qui était professeur à McGill, et qui dit, quelles que soient les barrières, les gens vont continuer à se déplacer.
C'est une phrase que j'ai déjà entendu prononcer, cette phrase-là. Et vous vous dites, malgré les barrières, qu'elles soient physiques, qu'elles soient abstraites, législatives et tout ça, les gens vont toujours passer outre ces barrières-là.
Clairement. Ouais. Ben écoutez, on l'a vu, c'était le chemin Raxam, il y a des chiffres, on a plus ou moins le même nombre de demandeurs d'asile pour la même période, quasiment. Les gens arrivent par avion. Donc, ce sont des gens qui ont besoin de protection internationale. Mm-hmm. Est-ce que ces gens vont l'avoir? Ça ne nous appartient pas. Ça appartient à la section de protection des réfugiés. Mm-hmm. Mais néanmoins, ces gens vont se déplacer pour demander l'asile, ou les gens vont se déplacer pour les migrants économiques pour trouver des meilleures conditions de vie. Mm-hmm. Donc, c'est un fait social. Voilà.
Qu'est-ce qui fait que l'Union africaine n'arrive pas à je ne dirais pas à contenir, mais au moins à organiser un sommet. Peut-être que ça existait, c'est vous qui étiez là-bas, entre spécialistes, mais un sommet sur l'immigration, parce que moi, je suis originaire de l'Afrique, je vois des images qui me révoltent, qui choquent, et je dis, mais c'est pas possible que ces pays n'arrivent pas à se réunir et contrôler ça. Pourquoi? C'est quoi le...
Mais d'autant plus que la grande partie, la grande majorité de la migration est intra-africaine.
Ok.
Donc, ça se passe à l'intérieur de l'Afrique.
Ah oui, on oublie, je l'ai mentionné, on parle beaucoup de l'Afrique vers l'Europe, mais on oublie qu'à l'intérieur même de
la migration, elle est africaine, et qu'on a quand même une culture de liberté de circulation dans l'espace africain depuis toujours. Depuis toujours, avant les indépendances. Donc.
Alors, c'est que ça... le déplacement des réfugiés,
oui.
Ça s'appelle une migration aussi?
Non.
OK.
Alors, ben, on peut parler de migration des gens qui se déplacent d'un point A vers un point B. Okay. Mais c'est une migration forcée.
OK.
La différence entre les réfugiés et les autres, c'est que pour le droit international, c'est la migration volontaire. Donc, on choisit, okay. comme moi, de venir m'installer ici. Mm-hmm. Et la migration forcée, ce sont les réfugiés.
D'accord.
D'accord. Okay. Et ouais. ça rentre globalement dans la migration.
Dans la migration. OK. Donc revenons donc, ouais, sur ça.
Pour l'Afrique. Oui. Alors, donc, ça se passe à l'intérieur de l'Afrique. Et on a une tradition de liberté de circulation qui fait que les gens peuvent quitter le Sénégal, aller au Mali, etc. Il y a des obstacles. Il y a des limites, ça. Mm-hmm. Il faut le reconnaître, là. Mais on a cette tradition de se déplacer de part et d'autre, d'autant plus qu'on a des populations nomades qui se déplacent d'une région ou d'une contrée à une autre. Par contre, ce qui se passe rentre dans l'externalisation de la politique migratoire de l'Union européenne. Ça, il faut le reconnaître, c'est une grande partie de ce qui se passe présentement sur le territoire de l'Union africaine. Donc, ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe au Maroc, qui fait que ces États-là adoptent des dispositions législatives pour lutter contre, j'allais dire, l'immigration, parce qu'on parle même d'immigration irrégulière, contresens. Mais bon, on parle d'immigration, donc des gens qui ne sont pas autorisés à entrer au niveau de l'Union européenne. On va les intercepter sur le territoire des pays d'origine ou de transit pour que ces gens n'arrivent pas. Donc, voyez un peu. Donc, ça s'explique. Autre chose, pourquoi l'Union africaine ne parvient pas à avoir un leadership? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, en fait, de ce que j'ai compris par rapport à ta question. Mm-hmm. Ça devrait se faire, d'autant plus qu'on a dans l'agenda 2063... une des références de l'agenda 2063, c'est vraiment d'assurer une pleine liberté de circulation. Avant cet agenda-là, ben, on a la charte africaine, okay. l'article 12. Donc on peut, et puis on a au niveau des espaces régionaux, au niveau de la CEDEAO, on a des protocoles qui permettent la libre circulation, droit de résidence, droit d'établissement, etc. Et récemment, le traité d'Abuja, le protocole de 2018 au protocole d'Abuja, au traité d'Abuja qui permet évidemment la libre circulation. Donc on a des instruments juridiques qui favorisent la libre circulation au sein de l'espace de l'Union africaine. Mmh. Et la Cour africaine, évidemment, fait un travail important aussi, rend de la jurisprudence par rapport à l'application de l'article 12 dans certaines situations. Donc, lorsque la Cour est invitée à prendre des décisions. Le leadership politique, c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Parce qu'on a, on a vu qu'il y a 55 000, en tout cas, bref, et je le dis de façon très nuancée, et on s'accorde là-dessus parce qu'on ne connaît pas réellement le nombre de disparus dans la Méditerranée. Mm-hmm. L'OIM a mis en place une base de données qui nous permet de retracer plus ou moins le nombre de disparus. On a des morts au niveau du désert qu'on a de la misère à identifier. Récemment, ce qui vient de se passer avec la décision de la Tunisie de renvoyer tout ce bon monde-là vers la frontière
avec la Libye.
Mm-hmm. Et puis, moi, j'ai reçu des vidéos, on a reçu des témoignages extraordinaires, des témoignages très lourds des gens qui meurent de soif et que le leadership de l'Union africaine est encore absent. Mm-hmm. Malheureusement, ça, il faut l'accepter. Mm-hmm. C'est une responsabilité partagée. On a la politique d'externalisation, mais le leadership de l'Union africaine, le leadership des États africains manque vraiment à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on est dans un continent où il y a beaucoup de ressources. Mm-hmm. Sinon, un continent où il y a pratiquement toutes les ressources du monde. On a une population jeune, âgée de 25 ans à 45-50 ans. Et il n'y a pas de perspective professionnelle. Les changements climatiques ont produit 4% des GES, ont subi l'ensemble des le plus important des conséquences des changements climatiques, c'est l'Afrique qui subit ça. Mmh. Et il n'y a pas de solution politique. Il n'y a pas de solution politique pour ces jeunes. On leur n'offre pas des perspectives d'emploi. On leur n'offre pas la possibilité d'enrichir. Donc, ces gens sont quasiment forcés de quitter pour aller chercher des meilleures conditions de vie. Mais il y a un cadre de politique qui a été adopté récemment en 2006, visant évidemment à harmoniser tout ça. Il y a des efforts. Il y a la zone de libre-échange qui a été adoptée. On a même le passeport africain. Si jamais ça se réalise concrètement.
Si ça se réalise.
Ça a été déjà imprimé lors du lancement au Rwanda il y a quelques années, mais on attend de voir la mise en œuvre. Donc,
comme d'habitude.
Comme d'habitude.
Pour parler de... je parlais du Canada, de nous, le Québec. Mais avant qu'on aborde cet aspect-là, dans les différents arguments que tu mettais en avant, tu as parlé de migrants climatiques.
Oui.
On entend de plus en plus ce terme-là, les migrants climatiques. Et quand on sait que la crise climatique, alors là, le dire aujourd'hui, ça devient même redondant parce qu'on la vit là, elle est là. Ces migrants-là, on pense, je dis les migrants climatiques, on pense quand même que le nombre ne va faire qu'augmenter. Donc les migrants climatiques, c'est ceux qui quittent les régions où ça devient invivable, plus vers le chaud que vers le froid. Pour aller vers des lieux où les conditions sont meilleures. Est-ce que ça, c'est quelque chose que, à l'OMIRAS, l'Observatoire, ou bien à l'Office, on dit quoi, OMI, c'est OMI des migrations internationales, ou OIM, l'Organisation internationale des migrations, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez déjà?
Oui, écoutez, c'est un des axes de l'Observatoire, en fait, les changements climatiques. Pourquoi? Parce que c'est un des facteurs de déplacement de plus en plus. Ça, c'est pas le seul facteur. Donc, on a constaté aussi dans les études, dans les travaux, que quand ces personnes se déplacent, il y a aussi d'autres motifs, c'est des motifs sociaux, économiques, etc., qui font que le motif climatique est déterminant quand même dans le déplacement. Mais ça se fait, et ce sont des déplacés internes. Donc, ce sont des gens qui se déplacent à l'intérieur de leur région, donc ne franchissent pas une frontière internationale. Et pour ce, pour le moment, on n'a pas en droit international une réponse juridique. Donc, on n'a pas une convention, un instrument juridique international.
Mais le fait qu'ils ne traversent pas de frontières, ça veut dire que ça va rester une gestion nationale, non?
Pour le moment.
Oui.
Pour le moment, c'est de la gestion nationale. On n'a pas de réponse en droit international, mais au niveau du continent africain, on a ce qu'on appelle la convention de Kampala qui apporte des réponses. Les changements climatiques, pourquoi c'est important? Parce que si on regarde les statistiques, d'ici 2050, juste l'Afrique, là, parce qu'on reste en Afrique, 80 millions de personnes qui vont se déplacer pour ces raisons-là.
À l'intérieur de...
Ouais. Donc, c'est un enjeu important de gestion des flux migratoires à l'interne du continent. D'accord? Pourquoi il faut en parler? Parce qu'il faudrait apporter des réponses concrètes. Il faut protéger les droits de ces personnes-là, notamment trouver un logement, accéder à l'école, etc., avoir un statut. Donc, on est encore là, en droit international, donc on n'a pas de réponse. C'est un enjeu important. Ça inquiète énormément, évidemment, mais on fait de la recherche, évidemment, pour proposer des pistes de solutions, surtout des solutions préventives. D'accord? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, faire en sorte que, on le sait, que d'ici 2050, il y aura 80 millions de personnes. Donc, on a la possibilité non seulement de réduire les gaz à effet de serre, mais surtout d'aller au-delà de ça, c'est-à-dire de prévoir des mécanismes, et ça se fait de plus en plus, des États qui adoptent des politiques par rapport au changement climatique, politiques visant évidemment à prévenir ces phénomènes-là, et surtout à apporter des solutions à ces populations qui pensent de passer.
On a 2 minutes pour parler de nous.
Nous,
alors. Oui, parce que nous sommes ici au Canada, nous sommes au Québec, et puis on a parlé. On voit les images de Méditerranée, on voit les images des groupes de personnes à travers l'Europe et tout ça. Nous, on est ici, puis on voit ça à la télévision. Quand on décrit les migrants, est-ce que ça nous interpelle?
Ça nous interpelle. Je disais au début de mes propos que la migration est un fait social. Je pense qu'il y a 40 ans, si on parlait de migration irrégulière au Canada, on allait se faire rire en pleine face. Et pourtant, on a reçu des migrations irrégulières, donc à travers le chemin Roxham. La migration est un phénomène, est un fait social qui implique en fait un enjeu international, voire transnational. Le Canada est impliqué parce que le Canada est un fait partie des trois pays d'immigration avec l'Australie et les États-Unis. Mmh. Un pays de tradition humanitaire qui reçoit, qui réinstalle des réfugiés, qui a une politique migratoire, qui fait partie des politiques migratoires les plus cohérentes. Donc, c'est une bonne politique migratoire à améliorer, évidemment, surtout dans certaines situations, évidemment. Mais on est interpellé tout simplement parce que les gens arrivent. Les gens de la Méditerranée, comme vous venez de le dire, les gens qui n'arrivent pas à aller en Europe vont essayer d'arriver au niveau du continent américain. Et ça se fait de plus en plus des Africains qui passent par les États-Unis, Nicaragua pour aller aux États-Unis, passer par le Mexique, aller aux États-Unis, puis venir au Canada de plus en plus. Donc, on ne peut pas ne pas réfléchir sur cet enjeu-là qui est ce qui se passe au niveau du continent africain, ou ce qui se passe au niveau... Donc, on est dans l'ère de la mondialisation de ce qu'on appelle de la mobilité. Mm-hmm. Donc, on ne peut pas... En plus de ça, on a un pacte mondial sur l'immigration qui a été adopté en 2018. Le Canada est un acteur important dans l'adoption et dans la mise en œuvre de ce pacte mondial-là pour l'immigration surcoordonnée. Ce qui a été accepté là, et le Canada joue ce rôle-là, en tout cas doit jouer ce rôle-là, c'est que la migration, elle est là. On ne peut pas arrêter la migration. Ce qu'il faut faire, c'est d'accompagner, c'est-à-dire de mettre en place des politiques qui permettent de sécuriser la migration. Sécuriser la migration, c'est quoi? C'est émettre des visas, permettre à des gens de voyager dans des meilleures conditions, d'arriver dans de bonnes conditions, de pouvoir s'intégrer, de faire des demandes d'asile, de les avoir ou pas nécessairement. Mais c'est ça, la migration. Le Québec est impliqué parce qu'on a vu ce qu'on a vécu récemment. Je sais que le timing, là, nous, les juristes, on parle énormément. Mais je vais terminer là-dessus. Mm-hmm. Ça nous interpelle parce qu'on a vu des gens qui sont arrivés. La nationalité des personnes qui sont arrivées ces cinq dernières années, là, depuis 2017, c'est Haïti, c'est la Syrie, on a eu l'Ukraine aussi qui est arrivée de façon régulière à travers les avions. Donc, on a des populations qui viennent de partout, qui arrivent ici de façon régulière comme irrégulière. Et le Québec, je pense, a aussi une politique migratoire de travail, de main-d'œuvre. On a vu 300 millions de travailleurs temporaires au Québec en 2022. C'est beaucoup. Je parle de travail temporaire parce que le gouvernement plafonne à 50 000, voire 60 000 là. Je pense que les prévisions vont changer parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. C'est ce que j'ai compris de la proposition qui a été faite, en tout cas qui sera analysée à l'automne. Donc, on est concerné.
Bon. Voilà. Ça, c'était le mot de fin que je voulais entendre. On est concerné. On ne va pas juste regarder ça à la télévision. On est concerné vraiment bien. Ça prend un cours, une heure pour parler de ça. Non. On a essayé de dépatouiller un peu tout ça pour que les gens comprennent exactement de quoi on parle quand on parle de crise des migrants. Fait social, et à côté de ça, effectivement, on aura toujours des politiques populistes qui vont se lever et puis qui vont mettre ça en avant. Merci d'être venu nous parler encore de ça. Puis je rappelle donc l'Observatoire sur les migrations internationales, les réfugiés, les apatrides et l'asile au MIRAS. Allez-y, il y a de l'information.
On fait c'est un groupe de recherche.
De recherche et oui. Tout ça, ouais, voilà.
On a 10 professeurs, je fais un peu de publicité, une vingtaine d'étudiants. On est à l'UQAM, affilié à l'IEM. On fait de la recherche sur l'immigration de façon holistique, voire et multidisciplinaire. Donc, on a beaucoup de recherches à faire. Et surtout, à déconstruire.
C'est ça.
Faire avancer la recherche surtout scientifique sur l'immigration. Voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dinavan Ndiaye. Et puis, on se dit à bientôt.
À bientôt.
Cyril Ekwala.
Néo Québec, dimanche de 13h à 15h. C'est rafraîchissant.